Chapitre 20. Les travaux publics. Si, avant la publication de l'édit, on comptait sur le travail et les sueurs des prisonniers chrétiens pour ériger les thermes de Dioclétien, on ne sera pas surpris de voir leur nombre et leurs souffrances bien augmenter à mesure que la persécution devenait plus féroce. On espérait l'empereur lui-même pour l'inauguration de cet édifice favori, et les mains étaient doublées pour que la construction fût promptement achevée. Des troupes de prétendus coupables enchaînés arrivaient chaque jour des ports de Luna, de Sardaigne et même de la Crimée ou de la Chersonèse, où on les employait dans les travaux des mines ou des carrières. Les plus rudes labeurs de la construction leur étaient réservés. Ils transportaient les matériaux, sciaient ou taillaient les pierres et les marbres, mêlaient le mortier, élevaient les murailles, ouvrage que les mains délicates de la plupart des condamnés chrétiens n'avaient pas été accoutumées à faire. Pour ce travail incessant, ils ne recevaient d'autre récompense que les mules et les bœufs qui partageaient leur labeur. Ils n'avaient pour dormir qu'un hangar ne valant pas mieux qu'une étable. Une nourriture suffisante pour entretenir leurs forces, des vêtements capables de les garantir des intempéries de la saison, voilà tout ce qu'ils pouvaient espérer. Des fers aux pieds, des chaînes pesantes pour rendre l'évasion impossible, augmentaient encore leurs souffrances. Des surveillants, estimés de leur maître en raison de leur rigueur, suivaient chaque groupe, le fouet ou le bâton à la main, toujours prêts à augmenter la fatigue par la souffrance aiguë, soit pour satisfaire leur lâche cruauté sur des êtres incapables de leur résister, soit pour complaire à leurs maîtres plus féroces encore. Mais les chrétiens de Rome vénéraient ces saints confesseurs et s'efforçaient d'adoucir leurs souffrances. Les diacres obtenaient de les visiter en gagnant les gardiens et de jeunes et courageux chrétiens s'aventuraient parmi eux, leur distribuaient des aliments plus nourrissants, des vêtements plus chauds et leur procuraient des moyens de se concilier les surveillants et d'obtenir d'eux de meilleurs traitements. Ils se recommandaient aux prières de ces saints et baisaient les chaînes qui meurtrissaient leur corps pour l'amour du Christ. Cette réunion d'hommes condamnés parce qu'ils servaient fidèlement leur divin maître avait un autre but. Comme les viviers dans lesquels le fastueux Lucullus entretenait les lamproies destinés à paraître dans un banquet, engraissés pour ses festins, ces cages ou ces enclos qui retenaient prisonniers des oiseaux rares réservés aux sacrifices, ou les troupeaux destinés aux festins des anniversaires impériaux, ainsi ces ateliers de travaux publics étaient des espèces de réserves. De temps à autre, on y venait chercher les éléments d'une sanguinaire hécatombe ou le moyen de satisfaire les féroces appétits du peuple pour de cruels spectacles à l'occasion d'une fête. On trouvait là la chair vivante et souffrante qu'on livrait aux animaux féroces lorsque le peuple romain désirait partager leurs jouissances sauvages. Une circonstance de ce genre approchait. La persécution languissait, on n'avait arrêté aucun haut personnage. Les fautes du premier jour n'étaient pas réparées et on attendait qu'on frappât un grand coup. Le peuple demandait des divertissements et l'anniversaire impérial qui approchait justifiait l'attente du peuple. Les animaux féroces que Sébastien et Pancratius avaient entendus hurler mugissaient en demandant leur proie. Ils interprétaient à leur façon le cri terrible « Christianos ad leones » déjà proféré et prenaient d'avance possession des chrétiens. Une après-midi de la fin de décembre, Corvinus se dirigea vers les bains de Dioclétien avec Catulus, dont l'œil exercé savait discerner les combattants propres à l'amphithéâtre, comme un bon trafiquant sait distinguer à la foire les bestiaux de choix. Il appela Rabirius, le surveillant en chef de tous les condamnés, et lui dit « Rabirius, je viens, par ordre de l'empereur, choisir dans votre établissement un certain nombre de misérables chrétiens. » Ils auront l'honneur de combattre dans l'amphithéâtre à l'occasion de la fête qui approche. « Je ne pourrai vraiment pas vous en céder, » répondit l'officier. « J'ai un travail à livrer dans un temps déterminé. Il ne sera pas achevé si on me retire des bras. » « Tant pis pour le travail. D'autres condamnés prendront la place de ceux que nous choisirons. Catulus et moi, nous allons nous promener et, en visitant vos chantiers, nous désignerons ceux qui pourront convenir. » Rabirius grommela contre cette demande peu raisonnable, mais s'y soumit et conduisit les deux pourvoyeurs de l'amphithéâtre dans une vaste salle voûtée. On y entrait par un vestibule circulaire où la lumière pénétrait d'en haut comme au Panthéon. Ce vestibule ouvrait sur un des côtés les moins étendus de la salle, construite en forme de croix, dans laquelle donnait un grand nombre de pièces plus petites, mais belles encore. À chacun des coins de la salle, à l'intersection des côtés, on devait ériger un immense pilier de granit. Deux de ces piliers se dressaient déjà aux deux coins. Un troisième, entouré de cordes attachées à des cabestans, devait être posé le lendemain. Un groupe d'hommes travaillait activement aux derniers préparatifs. Catulus poussa du coude Corvinus et lui montra du doigt deux beaux jeunes gens dont les corps, nus jusqu'à la ceinture comme ceux des esclaves, présentaient les formes les plus athlétiques. « Il me faut ces deux hommes, Rubérius, dit le pourvoyeur de bêtes féroces. Ils feront bien dans l'amphithéâtre. Je suis sûr que ce sont des chrétiens, ils travaillent si joyeusement. » « Je ne puis m'en passer à présent. Ils font l'ouvrage de six hommes ou d'une paire de chevaux au moins. Attendez que l'ouvrage le plus fatigant soit terminé et ils seront à votre service. » « Dites-moi leurs noms afin que je les prenne en note. Je vous prie de les soigner pour qu'ils restent en bon état. » Ils se nomment Largus et Smaragdus. Ce sont des jeunes gens de grande famille, mais ils travaillent comme des plébéiens et ils vous suivront avec joie. « Leurs désirs seront accomplis, » répliqua Corvinus avec une expression féroce. L'avenir, en effet, justifia cette prédiction. Ils continuèrent leur course, marquant pour l'amphithéâtre un grand nombre de captifs. Rabirius résistait, mais en général sa résistance était vaine. Enfin, ils arrivèrent à l'entrée d'une de ces chambres aboutissant au côté oriental qui longeait le côté le plus long de la salle. Ils aperçurent alors un groupe de condamnés. Devons-nous employer ce terme ? Ils se reposaient entre deux travaux. Au milieu du petit groupe était un vieillard, une longue barbe blanche couvrait sa poitrine. Il paraissait doux et bon, sa parole était gracieuse et il accomplissait avec joie les travaux que sa faiblesse lui permettait. Ce vieillard était le confesseur Saturninus qui, malgré ses 80 ans, portait deux chaînes pesantes. À ses côtés, on voyait deux plus jeunes travailleurs, Syriacus et Sicinius, qui, selon ce qui les rapportait, soutenaient ces chaînes tout en accomplissant leurs tâches accoutumées. Le plus grand bonheur des captifs chrétiens était d'aider leurs frères plus faibles qu'eux et d'accomplir leurs tâches en dehors de la leur. Mais leur temps n'était pas encore venu, car plusieurs d'entre eux, avant de recevoir la couronne éternelle, devaient être ordonnés diacres sous le pontificat suivant. D'autres captifs étaient couchés sur la terre au pied du vieillard qui, assis sur un bloc de marbre, leur parlait avec une douce gravité, semblait fixer toute leur attention et leur faire oublier leurs souffrances. Que leur disait-il ? Récompensait-il Syriacus de sa grande charité en lui annonçant qu'une partie des bâtiments immenses qu'il travaillait à élever serait dédiée à Dieu sous son invocation et deviendrait un titre dont la ligne titulaire serait close par un nom illustre ? Leur redisait-il qu'il apercevait, dans une plus glorieuse vision, comment ce petit oratoire serait contenu, absorbé dans un temple magnifique, dédié à la Reine des Anges, et qui comprendrait cette superbe salle tout entière avec son vestibule? Voyait-il aussi les plus grands artistes employant leur génie à édifier et à orner cette magnifique église? Quelle pensée eût été plus consolante pour ces pauvres captifs opprimés que de voir, dans le lointain des âges, que les bâtiments qu'on leur faisait construire pour les bains d'un empereur dépravé et les plaisirs du peuple païen étaient en vérité destinés à édifier une magnifique église où le vrai Dieu est adoré et où la Vierge Mère qui le conçut le jour de son incarnation est honorée dignement. Corvinus examinait ce groupe à distance. Il interrogea le surveillant et demanda quels étaient ceux qui le composaient. Il les eut bien vite nommés, puis ajouta « Vous feriez bien de prendre ce vieillard si vous le voulez, car il ne gagnera pas sa nourriture tant que ce travail durera. » « Je vous remercie, » répondit Corvinus. « Il ferait, ma foi, jolie figure dans l'amphithéâtre. Le peuple ne se contenterait pas d'un vieillard décrépit qu'un seul coup de griffe d'un tigre ou d'un ours suffirait pour tuer. Il aime avoir coulé un sang jeune et généreux. Il veut voir la vie ardente qui se débat contre les blessures et qui diminue à mesure que les coups deviennent plus violents et plus nombreux, avant que la mort vienne terminer la lutte. Mais voici un prisonnier que vous ne m'avez pas nommé. Il nous tourne le dos, il ne porte pas le vêtement ordinaire des prisonniers. Je ne lui vois pas d'entrave ni de fer. Quel est-il donc ?
Je ne sais pas son nom, répondit Rabirius, mais c'est un bel adolescent qui passe beaucoup de temps avec les condamnés, il les secourt et souvent même il les aide dans leurs travaux. Il paie bien pour que tout cela lui soit permis. Ainsi, il n'est pas de notre affaire de lui faire des questions.
Mais c'est mon affaire à moi, dit vivement Corvinus, et il s'avança dans le but d'interroger le visiteur. À ce moment, la voix de Corvinus frappa l'oreille de l'étranger qui se retourna. Corvinus s'élança sur lui, avec le regard et le geste d'une bête féroce, le saisit violemment et s'écria « Mettez-lui tout de suite les fers. Cette fois, au moins, Pancratius, tu ne m'échapperas pas !»